France Culture.
Le journal par Stanislas Fazac. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République, aurait dit Sébastien Lecornu au syndicat ce matin à Matignon. La rencontre n'a rien donné. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action nationale le 2 octobre. Explication dans un instant avec Wafia Kienich et Stéphane Robert. Une professeure de musique de 66 ans, blessée à coups de couteau par un collégien à Benfeld dans le Bas-Rhin. L'élève de 3e était fasciné par Hitler, a expliqué la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne, qui s'est rendue sur place. Put Your Soul on Your Hand and Walk, un documentaire bouleversant consacré à la mort d'une photojournaliste à Gaza, documentaire qui raconte l'enquête qui prouve que Fatma Hassouna a été délibérément visée par un bombardement israélien. Un traitement révolutionnaire contre le sida, le lenacapavir, bientôt accessible aux pays pauvres pour $40, une initiative de son fabricant indien que nous expliquera Tara Schlegel à la fin de ce journal. Une occasion manquée, voilà comment l'intersyndicale qualifie sa rencontre avec Sébastien Lecornu ce matin à Matignon. Le Premier ministre n'a pas répondu à nos revendications, ont déploré à la sortie les leaders syndicaux qui, dans la foulée, ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, soit 15 jours après celle du 18 septembre qui avait rassemblé entre 500 000 et 1 million de manifestants. Bonsoir Wafia Kienich.
Bonsoir Stanislas.
Les syndicats ont retenu de cette réunion une petite phrase de Sébastien Lecornu qui ressemble bien à un aveu d'impuissance.
Les 8 organisations syndicales sont effectivement sorties de Matignon ensemble, comme elles étaient entrées, un peu décontenancées par un aveu du Premier ministre, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Le Premier ministre nous a dit que jamais dans la Ve République, un Premier ministre n'avait été aussi fragile. Et donc ça confirme que nous sommes en position de force et qu'il faut que les travailleurs et les travailleuses se mobilisent pour que leurs exigences sociales soient entendues.
Selon deux autres sources syndicales, Sébastien Lecornu serait allé plus loin lors de ce rendez-vous en déclarant qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Malgré cet aveu, les revendications posées par l'intersyndicale n'ont pas été satisfaites, toujours selon la patronne de la CGT.
Le Premier ministre nous a parlé de rupture et d'engagement concret. Le problème, c'est qu'il n'y a eu ni rupture, ni engagement concret. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a une forte mobilisation le 18. Là, maintenant, il faut encore l'amplifier pour enfin obtenir la prise en compte des exigences sociales.
L'intersyndicale avait en effet 6 revendications, notamment que soit enterré le budget prévu par François Barrou, la nouvelle réforme de l'assurance chômage, le projet de suppression de 3000 postes de fonctionnaires. Sur l'assurance chômage, Sébastien Lecornu a semblé renoncer. Sur la justice fiscale, il a reconnu qu'il fallait avancer. Mais au final, il n'a pris aucune décision ferme et officielle, regrette Marie-Lise Léon, chef de file de la CFDT, lors de sa prise de parole au nom de l'intersyndicale.
Nous attendions des réponses claires de la part du Premier ministre. Dans le cadre de cet entretien, donc l'ensemble des 8 organisations syndicales, nous avons pu nous exprimer. Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse claire aux attentes des travailleurs et des travailleuses. Nous voulions en fait notamment la copie de départ des budgets PLF, PLFSS que nous n'avons pas obtenue. Donc pour l'intersyndicale, c'est une occasion manquée.
Par conséquent, comme il l'avait annoncé dès la semaine dernière, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 2 octobre prochain.
Wafia Kienich, merci. Nous sommes avec Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le Premier ministre le plus faible, le plus fragile, une chose est sûre Stéphane, Sébastien Lecornu reconnaît qu'il est dans une situation extrêmement délicate pour composer un gouvernement qui puisse tenir dans la durée.
Est-ce pour susciter de la compassion chez ses interlocuteurs? Espère-t-il en échange de cet aveu de faiblesse l'indulgence des organisations syndicales? En tout cas, on peut concéder à Sébastien Lecornu qu'il est lucide sur la situation dans laquelle il se trouve. Sa mission s'avère effectivement très délicate, périlleuse, pour ne pas dire irrésoluble. Les concessions qu'il pourrait faire au Parti Socialiste pour éviter la censure sont susceptibles de lui faire perdre le soutien de ses alliés de la droite républicaine. Et s'il ne fait pas de concessions, le PS votera la censure et son gouvernement sera renversé. À ce stade, il ne semble pas avoir trouvé la clé. Et il le dit, il est le ministre le plus faible, le plus fragile de la Ve République. Ça ressemble presque à un aveu d'échec anticipé, comme s'il s'excusait à l'avance de ne pas être en mesure de remplir la mission qui lui a été confiée. N'allons toutefois pas trop loin dans l'interprétation, car en dehors de cette cette confession, Sébastien Lecornu ne dit rien, ou presque rien, depuis deux semaines. Il n'a fait aucune proposition aux organisations syndicales, selon ce qu'elles rapportent de leur entretien. Et il n'a rien dit non plus la semaine dernière, lorsqu'il a reçu les formations politiques. Il est peut-être le Premier ministre le plus fragile, mais il est aussi le moins bavard, le plus énigmatique de la Ve République. Ça ne veut pas dire que rien ne bouge, car de véritables négociations semblent se dérouler en coulisses. Le journal Le Parisien affirmait ce matin qu'il aurait donné consigne à ses équipes de lui libérer le plus de temps possible pour multiplier les coups de fil officieux. Il va donc sans doute encore falloir être patient, car le Premier ministre prend son temps, à la fois pour négocier et pour choisir son gouvernement, dont la nomination n'est pas attendue avant le début du mois d'octobre, après la reprise de la session parlementaire.
Stéphane Robert, merci. Et ce soir, la France insoumise appelle les autres groupes de gauche à l'Assemblée à censurer Sébastien Lecornu dès l'ouverture de cette session parlementaire, mercredi prochain. LFI qui souhaite une motion de censure commune pour renverser le Premier ministre. Après les syndicats, Sébastien Lecornu a reçu le patronat cet après-midi. Le président du MEDEF, Patrick Martin, a répété au Premier ministre son rejet de tout impôt supplémentaire, comme la taxe Zuckmann sur les plus hauts patrimoines. Le MEDEF qui annonce la tenue d'un grand meeting patronal le 13 octobre prochain. On écoute Patrick Martin à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre.
Moi, je suis très inquiet que, sauf erreur de ma part, on ne parle plus d'emploi, on ne parle plus de croissance, on ne parle plus de compétitivité, on ne parle plus de compétition internationale, on ne parle plus d'investissement. Et le débat est parti dans des sphères qui peuvent être intéressantes, mais qui sont exclusivement fiscalo-fiscales. À vrai dire, je suis assez convaincu que le Premier ministre est parfaitement conscient que oui, il faut envoyer des signaux, au-delà des signaux, il faut une réalité, hein, sur le partage des efforts, sur l'équité, mais surtout sur la lutte contre la fraude, mais que non, il ne faut pas mettre en péril un modèle économique, un tissu entrepreneurial et une conjoncture qui sont donc assez fragiles à ce jour.
Patrick Martin, qui n'est pas rentré dans le détail de ce fameux grand meeting patronal dont on ne sait pas s'il se tiendra à Paris ou ailleurs. La communauté éducative sous le choc ce soir après une nouvelle agression au couteau dans un établissement scolaire, cette fois à Benfeld, au sud de Strasbourg. C'était ce matin au collège Robert Schumann, un adolescent de 14 ans a attaqué à l'arme blanche une professeure de musique de 66 ans. L'enseignante a été blessée au visage, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Quant à l'agresseur, il a retourné le couteau contre lui. Il a été hospitalisé en urgence absolue. Émilie Pou, on en sait plus ce soir sur le profil de cet élève.
Il s'agit d'un adolescent au parcours difficile, placé dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, considéré comme élève handicapé, avec des aménagements spéciaux et notamment un accompagnement psychologique. Il n'était pas connu pour des faits de violence, mais il avait été repéré pour une certaine fascination pour Hitler et pour les armes. Il avait même été sanctionné dernièrement et exclu de l'établissement. Un signalement avait été fait au procureur. En début de semaine, il s'était encore fait remarquer en dessinant des symboles SS sur un cahier. Une nouvelle procédure disciplinaire était en cours. Les autres élèves devant le collège l'ont tous décrit comme quelqu'un de taciturne, solitaire, toujours habillé en noir. Pour l'instant, les enquêteurs ne peuvent pas l'interroger. Il est toujours ce soir dans un état critique à l'hôpital de Strasbourg.
Émilie Pou, ici Alsace, selon le maire de Benfeld, de Jackie Wolfhardt. Il s'agit d'un événement isolé survenu dans un collège calme avec un encadrement exemplaire. Fin de citation. Le tribunal correctionnel de Lyon a poursuivi aujourd'hui l'interrogatoire de Gaël Perdriau dans le procès du chantage à la vidéo intime. Le maire de Saint-Étienne est accusé d'avoir ourdi un complot contre son premier adjoint, Gilles Artigue, avec une sextape. Il nie en bloc, malgré le témoignage accablant de son ancien directeur de cabinet. Une audience tendue, avec un prévenu sous le feu des questions depuis hier soir. Mathilde Imberti, le tribunal a notamment écouté des enregistrements dans lesquels Gaël Perdriau profère des propos menaçants envers la victime de la sextape.
Leurs deux voix claquent dans la salle du tribunal. Novembre 2017, le maire reproche à son premier adjoint de le trahir, de se rapprocher dans son dos de Laurent Wauquiez, le président de la région avec qui il est en froid, d'avoir des ambitions personnelles. Et ils en arrivent à la sextape. Gilles Artigue aborde le sujet, c'est d'ailleurs lui qui enregistre en cachette la dispute. Gaël Perdriau lui lance « Une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage, c'est une exécution ». Dans un autre échange, il parle d'une diffusion possible en petit cercle par parcimonie et quand son directeur de cabinet menace le premier adjoint piégé de diffuser la vidéo avec un escorte et qu'il ajoute « Je pense que vos enfants ne s'en remettront pas », le maire ne réagit pas. Aujourd'hui prévenu, il se repent. Mes propos ne sont pas glorieux et ce qui a été fait à Gilles Artigue est ignoble. Mais ça ne fait pas de moi un coupable. Le ton monte encore un peu plus quand les avocats de la victime l'assaillent de questions. Le somme d'être plus clair sur la date à laquelle il a été informé de la vidéo, il en a indiqué 3 différentes. « Vous êtes un menteur », lui lance Maître Buffard. Et quand votre premier adjoint vous dit qu'il a été piégé par un autre élu, interroge la présidente du tribunal, vous ne faites rien, vous ne convoquez pas l'élu en cause. Aujourd'hui, je le regrette. Et fendant l'armure brièvement, le maire ajoute que de mes 30 ans d'engagement, on ne retienne que quelques secondes déplorables, cela m'attriste.
Mathilde Imberti qui suit le procès de Gaël Perdriau devant le tribunal de Lyon. Le maire ex-LR de Saint-Étienne n'a pas renoncé à se représenter aux prochaines municipales en mars prochain. On a appris aujourd'hui l'éviction de Gaël Darchène, le directeur de la maîtrise des Hauts-de-Seine, un chœur prestigieux composé de 650 chanteuses et chanteurs âgés de 5 à 30 ans. Gaël Darchène était en difficulté depuis juillet 2024 à la suite des révélations de Radio France et du Canard Enchaîné. Il est visé par 5 plaintes pour des faits présumés de harcèlement sexuel et moral, dont une pour agression sexuelle. Nous avions aussi diffusé sur France Culture des témoignages d'anciens élèves du chœur qui décrivent des humiliations en public ou encore des bisous dans le cou. Gaël Darchène écarté, c'est le département des Hauts-de-Seine, principal financeur, qui reprend la main sur la maîtrise. Une direction collégiale a été mise en place. C'est un témoignage unique sur le drame de Gaza qui est sorti aujourd'hui en salle en France. Put your soul on your hand and walk. Mets ton âme sur ta main et marche. Un documentaire de l'iranienne Sepideh Farsi. Pendant plusieurs mois, la réalisatrice a filmé ses échanges WhatsApp avec Fatma Hassouna, photojournaliste à Gaza. Le film a été présenté au Festival de Cannes en mai dernier. Mais Fatma Hassouna n'y était pas. Elle avait trouvé la mort quelques semaines plus tôt chez elle, à Gaza, victime d'un bombardement israélien. Bonsoir Chloé Le Prince.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est une histoire bouleversante. Il y a le sourire de cette journaliste gazaoui qui crève l'écran. Mais ce documentaire, Chloé, raconte aussi l'enquête sur les circonstances de sa mort.
Sa mort, Fatem la voulait bruyante, comme pour nous empêcher de dormir, et c'est réussi. Le 16 avril, Fatma Hassouna a été assassinée dans l'appartement familial au deuxième étage d'un immeuble qui, lui, est resté debout après l'attaque. Elle a été victime d'un assassinat ciblé, et ça, on peut le prouver. Le 14 mai, un mois après sa mort, le laboratoire Architecture Forensique publiait cas numéro 1, premier rapport d'une série Kills the Press consacrée au meurtre des journalistes à Gaza. Les missiles largués par l'armée israélienne visaient spécifiquement l'appartement de la famille Hassouna au deuxième étage. Écrit Architecture Forensique, 15 pages implacables sur les vidéos de l'intérieur de l'appartement prises par un proche après l'attaque. Deux points d'impact au diamètre inférieur à 50 cm, c'est-à-dire le trou de munitions guidé avec précision tiré par des avions ou des drones israéliens via le toit, mais dimensionné pour exploser plus bas à un étage ciblé. La démonstration pulvérise tout le leurre de victimes civiles collatérales.
Alors, ces images satellites constituent un matériau essentiel pour le laboratoire Architecture Forensique et ses enquêtes à distance. Et dans le cas présent, Chloé, les images parlent même sous les radars.
Oui, le toit de l'immeuble de la famille Hassouni semble intact, alors que les photos prises à l'intérieur montrent distinctement ces deux trous d'obus. Une question de pixels édifiante. Et il y a un mois, l'architecte Eyal Weissman, fondateur à Londres d'Architecture Forensique, découvrait en avant-première au festival La Manufacture d'idées, le film de Sepideh Farsi qui sort aujourd'hui. Et lui, qui a enquêté à la demande de la cinéaste sur cette histoire, parlait de ces images sous le radar et du seuil de détectabilité. Eyal Weissman.
Israël pixelise les images satellitaires qui sortent de Gaza. Israël ne peut pas contrôler les images, mais peut contrôler comment les satellites sont réglés.
50 cm, c'est la résolution de ces images satellites. Et ça signifie que toute trace d'impact sur le toit, qui sera inférieure à 50 cm, ne sera pas visible à l'image. Non seulement la frappe qui a tué les membres de la famille de la journaliste gazaoui était ciblée, mais la preuve de l'assassinat est aussi dissimulé.
Chloé Leprince, merci. La réalisatrice du documentaire Sépide et Farsi était l'invitée des Midis de Culture vendredi dernier au micro de Marie Laborie. Émission à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. En Israël, la cité balnéaire d'Eilat sur la mer Rouge à l'extrême sud du pays a été touchée en fin d'après-midi aujourd'hui par un drone tiré du Yémen, annonce l'armée israélienne. Les secours font état de 5 blessés par des éclats, dont 2 grièvement. Son discours était très attendu après le spectaculaire revirement de Donald Trump hier sur l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a pris la parole tout à l'heure à New York à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Un président ukrainien ragaillardi par les propos de son homologue américain qui estime désormais que l'Ukraine peut regagner son territoire et peut-être même aller plus loin. Ce même Donald Trump qui avait humilié Zelensky à la Maison-Blanche en février en affirmant qu'il n'avait pas les cartes en main pour gagner la guerre contre la Russie. La menace russe ne s'arrête pas à l'Ukraine, a martelé Volodymyr Zelensky. C'est toute l'Europe qui est concernée.
Nous devons utiliser tout ce que nous avons ensemble pour forcer l'agresseur à s'arrêter. Et c'est seulement comme cela que nous aurons une vraie chance que la course à l'armement ne se terminera pas en une catastrophe pour nous tous. Arrêter la Russie maintenant coûte moins cher que se demander qui sera le premier à créer un simple drone portant une tête nucléaire. Si ça nécessite des armes, une pression sur la Russie, alors ça doit être fait. Et ça doit être fait maintenant. Nous vous avons déjà dit que l'Ukraine n'était que la première. Maintenant, les drones russes volent au-dessus de l'Europe. Poutine veut continuer cette guerre en l'étendant. Personne ne peut plus se sentir en sécurité aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. En réponse à Donald Trump, la Russie assure que l'Ukraine n'a pas les moyens de reprendre les territoires perdus, la Crimée et les 2 régions que Moscou occupe par partiellement, le Donbass et Zaporijia. La Russie n'est pas un tigre, elle est davantage associée à un ours et les ours de papier n'existent pas. Voilà ce qu'a rétorqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à Donald Trump qui avait qualifié hier la Russie de tigre de papier. C'est une première dans la lutte contre le sida. Des pays pauvres vont avoir accès à un traitement révolutionnaire en même temps que les pays développés. Un accord vient d'être conclu entre des organisations internationales comme United et la Fondation Clinton et un laboratoire indien. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Il faut d'abord dire un mot du médicament en question, le Lenacapavir. Son fabricant indien a promis de le proposer à $40, alors que dans les pays riches, Tara, il est aujourd'hui vendu à 28 000 $.
Oui, c'est le prix depuis juin aux États-Unis où il a été développé par leur laboratoire Gilead. Alors le Lena, comme on dit en bref, permet avec 2 injections seulement de se protéger quasiment à 100% contre le VIH. C'est aussi efficace que la PrEP orale, mais il ne nécessite pas de prendre un comprimé par jour. On voit donc le grand progrès. Problème, le prix. Alors en octobre dernier, le laboratoire Gilead a accordé des licences volontaires à 6 génériqueurs pour qu'ils puissent fabriquer un lenacapavir générique à faible coût.
Alors cela dit, Tara, on parle d'un accord avec seulement une firme indienne nommée Dr Reddy.
Effectivement, les génériqueurs ont été mis en concurrence au printemps dernier pour voir qui les ONG allaient aider. Carmen Pérez-Casas représente United.
Au mois de mai, on a ouvert un procès concurrentiel dont tous les fabricants qui avaient le droit de fabriquer ces médicaments nous ont répondu des informations sur où est-ce qu'ils étaient par rapport au développement, combien de temps ils prévoient pour arriver sur le marché, quels étaient les prix ciblés par les différents fabricants. C'est en prenant en compte de tous ces éléments qu'en fait, on a choisi Dr. Reddy Laboratories aujourd'hui.
Choisi pour l'aider financièrement, techniquement aussi à réduire encore les coûts de fabrication et aussi administrativement à raccourcir le délai de mise sur le marché. Car la mise sur le marché est prévue en 2027 dans 120 pays du Sud et c'est déjà un record, se félicite Madame Pérez-Casas.
Je ne connais pas de cas où on a vu vraiment un médicament contre le VIH qui soit disponible sur le marché à un prix comparable dans un temps aussi raccourci, soit moins de 10 ans après l'approbation réglementaire du produit d'origine de Gilead. Ça prend plus de 10 ans.
Plus que 10 ans.
Oui, normalement.
Il y a néanmoins un vrai bémol, affirme aussi l'organisation internationale. Gilead a limité à 120 le nombre de pays qui auront accès au générique du lenacapavir. Or, il manque 26 pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le Brésil par exemple, ou encore des pays d'Europe de l'Est. Les ONG vont donc continuer, Stanislas, à plaider pour un accès encore plus élargi à un prix abordable.
Tara Schlegel, merci. L'épidémie de sida qui reste aujourd'hui une réalité. Il y a eu l'an dernier 1 400 000 nouvelles contaminations recensées dans le monde. Le temps demain, toujours de la grisaille sur la façade est, mais des éclaircies sur le reste du pays. Le soleil s'imposera sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales restent fraîches de 5 à 10 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 10 et 25 degrés du nord-est à la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Grégory Wallon. 18h20 sur France Culture, je vous laisse en compagnie de Quentin Lafay pour les questions du soir.
Merci beaucoup Stanislas Vazak, à vous et à la rédaction de France Culture pour ce journal et bienvenue à toutes et à tous dans Questions du soir. Un début de soirée consacré à l'actualité, au débat, aux idées et aux découvertes. Et à 19h dans l'actualité, vue par les idées et la recherche, alors que depuis lundi, trois femmes comparaissent à la cour d'assises spéciale de Paris, trois revenantes de Syrie. Une question, en matière de terrorisme, les femmes sont-elles des justiciables comme les autres ? On en parlera avec la chercheuse au King's College de Londres, Constance Willem-Olympiou. Mais pour leur place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
Début septembre, Deezer déclarait que 28% des titres qui arrivent chaque jour sur sa plateforme sont générés à 100% par des intelligences artificielles. Un chiffre qui devrait continuer d'augmenter dans les mois à venir, même si ces musiques ne sont écoutées que par 0,5% des utilisateurs. Alors l'IA est-elle un danger ou une révolution absolue pour la musique ? L'IA menace-t-elle fondamentalement la création musicale ou n'est-elle qu'un outil supplémentaire pour nous éclairer dans ce débat ? D'actualité, deux invités ce soir, Sofiane Fanen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste musical, cofondateur du média en ligne Les Jours, auteur pour Les Jours également de deux séries, notamment la première intitulée La fête du stream, la seconde Le chant des machines, deux séries qui s'intéressent à l'arrivée de l'IA dans la musique et à ses implications sur l'industrie musicale et du streaming. Face à vous, François Pachet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes créateur de start-up, entrepreneur dans l'intelligence artificielle, ex-directeur du Spotify Creator Technology Research Lab et du Sony Computer Science Laboratory. J'ai un excellent accent. Bravo. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Il y a un artiste IA de R&B qui vient de signer un contrat de plusieurs millions de dollars. Mais cette personne ne fait rien. Vous pensez peut-être que l'IA sert juste à s'amuser, à tenter des nouvelles versions de titres, mais l'IA peut aussi créer entièrement une chanson. Par exemple, vous pouvez prendre une chanson et demander à l'intelligence artificielle de la réécrire, la réinterpréter avec une voix country et tout refaire. Et tout ça sans avoir à créditer qui que ce soit. C'est tellement hors de notre contrôle. Dans nos domaines créatifs, les gens ont travaillé dur, se sont formés, se sont battus pour leur travail toute leur vie. Et je suis désolée, mais je n'ai aucun respect pour ça.
La voix de la chanteuse de R&B américaine Kehlani, qui s'insurge contre l'intelligence artificielle, elle s'exprimait la semaine dernière sur son compte TikTok, Sofiane Fanen. Est-ce que vous partagez son état d'esprit, cet état d'esprit, et surtout cette inquiétude que l'on entend d'une manière extrêmement, extrêmement directe?
Moi, je suis pas artiste, donc je peux pas mettre dans la même position. Mais évidemment que chez les musiciens en ce moment, chez les artistes, il y a une crainte de voir l'IA prendre une place à la place des artistes, à la place des humains, etc. Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, elle a une réaction sans comprendre exactement ce qui s'est passé avec cet artiste, qui s'appelle Xenia Monet, on peut l'écouter sur toutes les plateformes de streaming, qui a été effectivement signé pour 3 millions de dollars, c'est beaucoup et pas beaucoup dans le monde de la musique aujourd'hui, pour le dire, mais en fait, derrière Xenia Monet, il y a une jeune femme américaine qui écrit des paroles, qui a écrit ces paroles et qui les fait chanter par une entité virtuelle, parce qu'elle, elle n'est pas du tout musicienne, elle n'est pas du tout chanteuse, elle n'est pas instrumentiste non plus, et elle n'est pas entourée de musiciens. Donc elle a trouvé une application, en l'occurrence c'est Suno, qui est l'une des deux grosses applications de création de musique comme ça, de clé en main, pour faire de la musique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui plaît, parce que ce qui est intéressant chez Xenia Monet, pardon, c'est que ça marche sur les plateformes de streaming, ça stream, ça commence à vraiment rentrer dans les playlists, ça circule, et c'est une des premières fois où on a un vrai succès, on va dire, IA. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui plaît, c'est les paroles, justement. Quand on va sur TikTok, ce que les gens reprennent, c'est vraiment, vraiment les paroles, parce que ça raconte une vie assez personnelle, des sentiments, alors très basiques, on n'est pas dans une grande poésie, mais il y a des sentiments très humains, en fait, derrière tout ça. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une humaine qui est
donc
cachée.
Donc c'est une belle rencontre entre l'homme et la machine ?
Belle, non, parce que franchement, les morceaux sont vraiment fatigants. Entre vous et moi, en termes de production, c'est extrêmement limité. C'est comme si vous aviez une chanteuse qui était à fond tout le temps. Il n'y a pas de subtilité, les instruments sont absolument quelconques, la qualité sonore est extrêmement limitée aussi, si on l'écoute, c'est vraiment rachitique. Donc c'est pas du bel ouvrage. Mais malgré tout, il y a une émotion qui se glisse là-dedans, d'une façon ou d'une autre, et visiblement, c'est ce qui parle au public en ce moment, parce que ce morceau fonctionne.
François Pachet, est-ce que vous êtes d'accord avec Kelani, notamment lorsqu'elle explique que pour les artistes, tout semble hors de contrôle aujourd'hui ?
Je trouve que c'est difficile de parler de tout ça sous la forme de slogan ou de punchline, de réduire ça à des oui, non, c'est bien, c'est pas bien, j'ai pas d'avis, à vrai dire. Mais je voudrais faire une remarque, parce que là on parle de l'IA, la musique un peu en général, sur qu'est-ce que ça peut produire, ça c'est des cas intéressants, mais il me semble qu'il y a un truc, en tant qu'observateur,
dites-nous,
qui se passe, qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques en musique, je pense au piano, qui était une révolution technologique, la guitare électrique, les synthés Moog dans les années 60, la synthèse FM, les échantillonneurs, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il y a des musiciens qui s'en emparent et qui créent des choses radicalement nouvelles. La guitare électrique, c'est le rock. Enfin, le rock n'existerait pas s'il n'y avait pas de guitare électrique, ou ça serait autre chose, disons. La synthèse FM a coloré toute la musique des années 80, les synthés, c'est le cold wave, et plein d'autres choses, on pourrait débattre pendant des heures. Et puis là, on a tout d'un coup l'IA, qui est une technique ultra puissante, il n'y a pas de doute. Ultra spectaculaire, mais il n'y a pour l'instant pas vraiment de nouveau style. Qu'on pourrait définir en disant, voilà, ça a été fait grâce à l'IA. Il y a des implications, on en parlera certainement, sociales, et sur l'industrie de la musique et tout ça.
Mais rien de neuf en matière de création.
Je veux pas dire rien, c'est pas tout ou rien. Il y a des choses intéressantes, comme Sanfian l'a dit tout à l'heure. Ça permet d'aller plus vite, ça permet de... Mais enfin, fondamentalement, les technos qui sont derrière, qui sont les transformers ou les modèles de diffusion, il y a que deux types d'algorithmes, elles permettent de faire des choses similaires. Elles sont pas construites d'ailleurs pour faire autre chose.
Pour entrer dans le concret, je voudrais vous faire entendre trois musiques, trois chansons qui ont été créées, générées grâce à l'intelligence artificielle. On se demandera ensuite s'il existe un style IA.
Je t'ai eu sans le vouloir et sans faire de magie. Je saurais jamais comment tu souffles, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheveux, mais je trouve agile.